RCF. L'entretien de la semaine, Thierry Lyonnais.
On ne mesure plus vraiment l'incroyable notoriété qu'avait l'écrivain et académicien Pierre Loti à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ce marin, devenu écrivain, voyageur, publia de véritables best-sellers comme Madame Chrysanthème sur le Japon, Asiade sur son amour à Istanbul et bien sûr Pêcheur d'Islande sur les courageux pêcheurs de Paimpol. Mais Pierre Loti était aussi dessinateur, photographe et reporter. Bruno Versier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste de la vie et de l'œuvre de Pierre Loti, professeur honoraire de littérature contemporaine à la Sorbonne. Vous publiez aux éditions Kalman-Lévy avec votre confrère, également grand connaisseur de Loti, Alain Quiella-Villéger. Vous publiez Pierre Loti, Le monde en passant. Et vous écrivez dans votre préface, Pierre Loti ne s'est jamais voulu romancier. Surprenant pour celui qui fut le romancier français le plus célèbre entre 1890 et 1910. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je voulais dire qu'il n'avait pas rêvé de devenir écrivain et encore moins romancier, et que c'est un peu le hasard qui a fait qu'il a publié des livres que nous considérons comme des romans. Lui n'a jamais utilisé pratiquement le mot « roman ». Je veux dire, ce sont des livres, ce sont des ouvrages, des textes, mais ce ne sont pas des romans au sens où nous l'entendons.
Et qu'est-ce que ce serait ? Comment vous définiriez ce qu'il a écrit ?
Si je voulais être pédant, je dirais que ce sont des autofictions, mais bon, le mot n'existe pas à l'époque. Non, son éditeur a présenté ses livres comme des romans. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne sait pas fantasmer ou imaginer en tant que romancier. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez dit marin devenu écrivain. Non, il est marin toute sa vie. Et il est en même temps écrivain, dessinateur, etc., etc.
Et alors, je l'ai dit également, il est reporter. Et ça, on connaît moins cette dimension de Pierre Loti. Il a écrit beaucoup d'articles que vous présentez dans ce livre.
Oui, tous les textes qui sont dans ce livre ont été publiés d'abord dans des organes de presse. Alors, il y a évidemment les textes du début qui sont en fait des textes qui accompagnent des dessins de Loti, enfin, qui à l'époque s'appelle Julien Viaud, qui ne s'appelle pas encore Loti. Et ces dessins sont publiés sous forme de gravure, ce n'est pas lui qui fait la gravure. Et on lui demande de faire des petits textes, disons des légendes, qui peu à peu prennent de plus en plus de place et qui deviennent finalement les premiers textes de Pierre Loti.
Alors quelques mots sur Julien Viaud qui, vous l'avez dit, va prendre le nom de Pierre Loti. Il est né à Rochefort en 1850. D'où lui vient ce goût de l'ailleurs, ce goût du voyage ?
Peut-être d'être né à Rochefort, qui est une ville, donc une des grandes villes de la marine royale, impériale, républicaine finalement. De la famille, il a un frère qui est parti à Tahiti, un frère médecin de marine.
Qui a été le premier photographe d'ailleurs.
Qui a été le premier photographe de Tahiti. Il a toujours rêvé de partir, il a toujours rêvé d'aller ailleurs et de revenir. Ce n'est pas un explorateur, ce n'est pas un aventurier, c'est quelqu'un qui part et qui revient.
Et qu'est-ce qu'il recherchait dans le voyage ?
Il devient marin d'abord presque par nécessité financière. Sa famille est presque ruinée et la façon la plus simple de gagner sa vie pour lui, c'est d'être préparer l'école navale, d'être reçu, d'avoir un salaire qui lui permet, disons, d'aider un peu sa mère à sauver la maison familiale qui est très menacée de location puis de vente. Et puis, ses dessins vont lui permettre aussi de gagner un peu d'argent pour améliorer l'ordinaire, disons. Alors, qu'est-ce qu'il cherche ? Ben, il cherche ce qu'on cherche tous quand on voyage. Il cherche autre chose. Il y trouve beaucoup d'autres choses.
Mais est-ce que Loti était un orientaliste, comme il y en avait beaucoup au XIXe siècle, c'est-à-dire avec une sorte de nostalgie, de recherche d'un monde autre, différent, en disparition ?
Ce n'est pas aussi architecturé que vous le présentez. Il rêve d'ailleurs, alors l'Orient, les colonies, le mot colonie le fait rêver autant que le mot Orient. Mais c'est vrai que l'Orient, très vite, dès qu'il aborde l'Afrique du Nord, puis la Turquie, L'Orient devient sa deuxième patrie.
Alors Bruno Versier, on va reparler dans un moment du colonialisme, mais il a commencé son premier grand voyage, c'était du côté de l'île de Pâques, de Tahiti, en 1872. Et déjà là, on est entre émerveillement et déception quand on le lit. Est-ce qu'il n'y a pas toujours un peu ce leitmotiv qu'on retrouve chez lui, la civilisation est trop présente?
Oui, ben Loti est un, non pas un réactionnaire, mais un passéiste. Loti aime les pays qui n'ont pas changé, appelons-les primitifs. Mais enfin bon, le mot ne doit plus être tout à fait acceptable.
Mais même au XIXe siècle, ça n'existait plus.
Ça n'existait plus. Ben, il le trouve aussi en Patagonie, à la Terre de Feu, par là, dans le sud, il trouve des indigènes ichtyophages qui sont en train de manger des poissons tout crus. Enfin, donc quand même, ça l'impressionne.
Mais qui sont en voie de disparition eux aussi.
C'est en voie de disparition. Non, c'est à Istanbul, quand le sultan fait passer une constitution, il est absolument scandalisé. Enfin, un empire ottoman avec une constitution, à quoi ça ressemble? Ça ne ressemble à rien. Tahiti est déjà envahi par la civilisation.
Ce
qu'on appelle le progrès, la civilisation, tout ça, pour lui, le Tahiti n'aime pas. Dans sa maison de Rochefort, il a fallu attendre très longtemps pour qu'il y ait l'électricité. Les trains qui font du bruit, il n'aime pas non plus. Enfin, bon, il y a un côté dandy, peut-être, on va dire, aristocrate chez Loti.
L'entretien de la semaine, RCF.
Bruno Versier, comment lire aujourd'hui Loti autour justement du rapport au colonialisme? On est très critique en ce moment vis-à-vis du colonialisme. Loti a participé au colonialisme. Comment le lire, Loti, à partir de cette...
Comment le lire? Il faut le lire entièrement, je dirais. C'est-à-dire, évidemment, Loti participe aux guerres coloniales, guerre du Tonkin, guerre de l'Annam, mais il publie un certain nombre d'articles, là ce ne sont pas des reportages, mais enfin nous les avons inclus dans le livre sur les reportages. Il publie des 3 articles dans le Figaro qui lui valent d'être rappelé immédiatement à Paris et on le menace de l'exclure de la marine.
Il est très critique vis-à-vis de ces guerres coloniales.
Alors c'est pas le colonialisme en tant que tel qu'il critique. Il critique le fait que des gouvernements qui n'y connaissent rien envoient se faire tuer des pauvres paysans bretons qui n'ont rien à faire. Il y a un côté toujours de compassion ou de compréhension de l'autre qui fait que Loti ne peut pas être... Mais il ne critique pas la colonisation en tant que telle. Il critique les méfaits de la colonisation, soit le côté progrès, soit le côté guerre coloniale qui ne sert à rien.
Et son rapport aux femmes, puisqu'il parle beaucoup de ses histoires personnelles d'amour avec des femmes, que ce soit Madame Chrysanthème au Japon, que ce soit Akije en Grèce, puis à Istanbul. Comment comprendre ce rapport avec les femmes?
Ah, comprendre, c'est beaucoup dire. Disons que je suis en train en ce moment de faire une relecture entière du journal. Enfin, c'est plutôt dans le genre, c'est millétré. Loti a un nombre d'aventures dont certaines ne sont peut-être pas d'ailleurs qu'avec des femmes. Il y a peut-être aussi des hommes dans l'histoire. Loti est très, je dirais, machiste au sens du XIXe siècle. Il y a une femme, une épouse pour faire des enfants. Quand l'enfant n'est pas satisfaisant, on cherche une autre femme du Pays basque pour faire des enfants qui seront plus costauds.
C'est ce qu'il a fait. Hein. Il s'est marié avec Blanche Franc de Ferrière.
Mais quand on voit quelqu'un qui vous plaît, avec qui on a envie de coucher, il le fait.
Donc Sacha Guitry avait raison quand il disait, en parlant de Loti, l'homme était marié, le marin l'était moins, Loti ne l'était pas.
Pas du tout. Oui, non, non. Mais c'est hallucinant. Enfin, je veux dire... J'en suis même, relisant maintenant le journal à la suite, j'en suis même surpris enfin, de la quantité. Enfin, le type passait, disons, une nuit sur deux à coucher avec quelqu'un.
Et toujours insatisfait, en fait, non?
Oui, alors...
Parce que j'ai l'impression...
C'est toujours le grand amour.
C'était un éternel insatisfait.
Non. Je n'ai jamais aimé comme ça, c'est le plus bel amour. Et puis, 15 jours plus tard, on n'en parle plus, on passe à autre chose.
Pierre Loti était athée. Désespéré de l'être.
Désespéré d'athée, désespéré de l'être. Oui, c'est une très belle formule.
C'est une belle formule. Est-ce qu'elle est vraie, cette formule?
Oui et non, parce qu'en même temps, pourquoi est-ce qu'il entreprend ce voyage en Terre Sainte pour essayer de retrouver la foi de son enfance, passer une nuit au Mont des Oliviers à appeler Dieu pour qu'il lui fasse signe, mais Dieu ne lui fait pas signe, donc il est assez déçu. Pourquoi, quand il est en Inde, il s'en va chez les théosophes et qu'il signe son adhésion au mouvement théosophique, parce qu'il trouve qu'il y a là une vérité.
Il aura cherché toute sa vie.
Pourquoi est-ce qu'à la fin de sa vie, il revient vers le protestantisme en écrivant la pièce Judith Renaudin sur ces protestants exilés aux Pays-Bas au moment de la révocation de l'édit de Nantes? C'est quelqu'un qui n'était, on va dire qu'il avait une âme religieuse ou métaphysique, mais que les religions telles qu'elles sont ne lui déplaisait. Enfin bon,
et ça, il n'a jamais eu de grâce de rencontre, on peut dire cela comme ça.
Non.
Alors qu'il a recherché.
Oui,
recherché.
Il a recherché.
Bruno Versier, pour terminer, pourquoi lire Loti aujourd'hui, selon vous?
Moi, je dirais parce que c'est un grand écrivain.
Pour son style, déjà,
oui,
c'est ça?
Oui, je veux dire, un écrivain, pour moi, c'est un style. C'est, et puis parce que c'est, par exemple, ses reportages et ses récits de voyage sont tout à fait étonnants. Et puis même du point de vue, j'irais, de la science narrative, il a fait des choses très étonnantes. Ses premiers livres, qui ne sont pas des vrais romans, ou son dernier roman, Les Désenchantés, sont complètement, disons, contemporains du point de vue de la construction.
Bien, merci beaucoup. En attendant de se plonger dans les livres de Pierre Loti, on peut lire le livre que vous avez publié, Pierre Loti, Le Monde en passant.
Avec une virgule.
Avec une virgule.
Après Le Monde.
Pierre Loti, virgule, Le Monde, virgule, en passant. Aux éditions Calmann-Lévy. Et puis je signale aussi, pour ceux qui aiment la bande dessinée, que Calmann-Lévy publie Pierre Loti, Une vie de voyageur, avec Alain Kella Villéger au scénario et le dessinateur Pascal Reynaud. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Pierre Loti, cet écrivain voyageur.
C'est moi. Thank you.